Et à midi, on aime l'été. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2017. Je suis contente de vous accompagner pendant cette prochaine heure à l'émission Aime l'été. Je ne serai pas toute seule. Encore une fois, pas mal d'invités, notamment Serge Bradet et sa chronique d'histoire. Je vais aussi m'entretenir avec la maman de Nathan, Martine Fontaine. Un accident bête au niveau des yeux, nous en parlerons. Et du coup, nous parlerons de la prévention pour éviter peut-être que de tels accidents arrivent à d'autres et les premiers gestes à poser. Également aujourd'hui à l'émission, notre première chronique de la capitale avec Michel Bédard en direct de Québec au sujet de l'accessibilité du festival d'été notamment. Et puis nous finirons avec Carole Côté, spécialiste en orientation et mobilité, programme d'efficience visuelle de la capitale nationale. Et elle va nous présenter un guide. Un objet qu'elle a inventé, ça s'appelle un côte à côte et c'est fait exactement pour une personne voyante et non-voyante. Alors donc avec Madame Côté en toute fin d'émission. Voyez, hein, plein de belles choses encore, on commencera par des nouvelles bien sûr. Restez avec nous, c'est Aime l'été qui commence. Alors, quelques nouvelles pour commencer. Montréal aura son technopôle en réadaptation pédiatrique, nous dit Sarah Champagne dans lapresse.ca. Dans un moment plutôt rarissime en politique, deux ministres du Québec précédés par un ministre fédéral ont annoncé un investissement d'un peu plus de 25 millions en santé au Québec. Grâce à cet argent, le centre hospitalier universitaire, le CHU de Sainte-Justine, aura son technopôle en réadaptation pédiatrique, pour traiter les enfants et adolescents souffrant d'une déficience motrice ou du langage. Le nouveau bâtiment, qui sera construit sur l'actuel site du centre de réadaptation Marie-Enfant, rue Bélanger dans Rosemont, réunira chercheurs, cliniciens spécialisés et enseignants en réadaptation. La haute direction du CHU Sainte-Justine travaillait depuis une dizaine d'années sur ce projet. À l'heure actuelle, le centre de réadaptation traite près de 5000 jeunes annuellement, la majorité souffrant d'une déficience motrice. Le président directeur général du centre hospitalier, le docteur Fabrice Brunet, parle d'une réorganisation de la réadaptation en plateau clinico-technosciences intégré. On sera capable, par exemple, de créer un environnement virtuel avec un avatar pour traiter un enfant souffrant de bégaiement. Il apprendra à échanger avec son avatar qui tranquillement deviendra lui-même. On parle aussi d'intelligence artificielle pour les fauteuils roulants, de prise en charge personnalisée, a expliqué le haut dirigeant de Sainte-Justine. Alors qu'est-ce que c'est qu'un technopôle? Eh bien, le technopôle renferme, entre autres, des sciences du mouvement. Enfin, je veux dire, une application, mais un... voyons, je vais trouver le mot à un moment donné, mais il y sera question de sciences du mouvement, de robotique, de matériaux intelligents, de sciences de la communication, insertion sociale, réalité virtuelle et cybermobilité. La date prévue de l'ouverture en 2018, la superficie 76 000 pieds carrés. Et puis le saviez-vous, avec Google Maps, maintenant vous pouvez renseigner les personnes qui en ont besoin des lieux accessibles. Autrement dit, si vous faites des recherches afin de mieux informer sur l'accessibilité des lieux pour les personnes handicapées, eh bien Google met désormais à contribution les internautes, c'est-à-dire vous. Sur Maps, il devient possible de préciser quels lieux peuvent accueillir une personne en fauteuil roulant. Fin 2016, Google Maps a intégré une nouvelle fonctionnalité afin de préciser aux internautes si un lieu est accessible en fauteuil roulant. L'entreprise souhaite poursuivre dans cette voie et demande à présent à ses internautes de l'aider à renseigner l'accessibilité des lieux cartographiés. Afin de construire une carte pour tous, Google propose aux utilisateurs d'Android de renseigner Avec le plus de détails possible, les utilisateurs de Maps. Alors, si vous souhaitez contribuer à vous-même importer de l'information sur les lieux accessibles, eh bien, Google indique dans une publication qu'il suffit d'ouvrir le menu principal de Maps, de sélectionner dans vos contributions l'option permettant d'afficher les informations manquantes. Il est alors possible de trier les informations manquantes selon le critère de l'accessibilité. Si tout se passe comme Google l'a annoncé, les autres utilisateurs de Maps seront alors en mesure de voir si les lieux sont équipés d'entrées, d'ascenseurs, de sièges ou de parkings accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Pardon. Ces informations seront consultables sur les versions bureautiques et mobiles de Maps, de même que sur Google Search, mais pour l'instant, l'entreprise ne semble pas envisager d'étendre l'option à iOS. Avec l'aide des utilisateurs, nous avons pu ajouter les informations en matière d'accessibilité dans près de 7 millions de lieux à travers le monde. Ça valait le coup de le savoir. Alors, il se fait voler son fauteuil roulant de 8 000 $ sur une berge. Oui, c'est arrivé. C'est un paraplégique de 23 ans qui s'est fait voler son fauteuil roulant. C'était dimanche dernier. Lui naviguait sur le lac de Lachigan dans les Laurentides. Il a un bateau qui est amarré au quai communautaire à moins d'un kilomètre de chez lui. Et comme à son habitude, il s'y est rendu avec des amis. C'était dimanche dernier. Alors, il s'assoit dans le bateau. Pendant ce temps-là, les amis ont pris l'habitude de cacher le fauteuil roulant derrière des grands buissons pendant qu'ils s'en vont en promenade. Et lorsqu'ils sont revenus à 19h, plus de fauteuil. Évidemment, ils ont cherché, ils ont fouillé, et puis ils n'ont rien trouvé. Il a fallu ramener Jérémy, ils l'ont porté jusque chez lui. Alors ça, c'est pour la nouvelle que je devais vous dire aujourd'hui. D'ailleurs, le père était dans l'incompréhension la plus totale. C'est quand même un fauteuil qui est fait sur mesure. Ça vaut 8 000 $. Ils ont été obligés d'aller tout de suite chez le constructeur pour en faire un autre. Pendant ce temps-là, le constructeur avait décidé de lui en fournir un absolument gratuitement, mais pas forcément sur mesure. Et puis, ce matin, nouvelle, figurez-vous qu'il n'a pas été volé du tout. C'est que ce sont des gens qui ont dit qu'ils avaient l'impression qu'il avait été volé et abandonné là. Parce que vu qu'il était dans des buissons, ils l'ont ramené chez eux jusqu'à ce qu'ils entendent la nouvelle de ce pauvre garçon qui s'était fait voler dans un buisson. Alors évidemment, ils ont pris contact tout de suite et ils ont ramené le fauteuil. Ils se sont confondus en excuses, mais en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Et puis, alors ça, c'est une nouvelle que je trouve absolument saisissante et j'espère bien qu'on va pouvoir contacter quelqu'un en France de ce Robot Care Lab qui accompagne la ville de Saint-Quentin. C'est dans l'Aisne. La ville de Saint-Quentin, qui est une ville très connectée, qui accueille depuis 2014 le Salon international robot numérique. Et avec la présence, avec le portail Présence plus Muséum, qui a été spécialement développé par Robot Care Lab. Alors, la direction du patrimoine de Saint-Quentin entend offrir à toute personne à mobilité réduite la possibilité de visiter son exposition Art déco. Aujourd'hui, une personne à mobilité réduite peut réserver un créneau de visite et se connecter à un robot. Le robot s'appelle SAM, pour Système Audiovisuel Mobile, et la personne pilotera le robot de chez elle, à partir d'un PC ou d'une tablette ou d'un smartphone. Alors, qu'elle soit seule à effectuer la visite ou en compagnie d'un groupe d'amis physiquement présents à l'exposition, le robot lui fera vivre une expérience immersive. On comprend bien que les personnes sont à la maison et j'imagine sur l'écran de télévision, ils pourront manipuler. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat, mais quelque chose qui me chatouille au fond de la gorge. Je vais être obligée de... Je vous reviens tout de suite. Oui, c'est très très fatigant quand on est en direct à la radio. Comme quoi, voyez-vous, on est en vrai, vrai, vrai direct. Et que voulez-vous ? Nous ne sommes pas des robots. Il nous arrive d'avoir des quintes de toux comme celle en ce moment qui me narve un peu. Alors, donc, ce robot est considéré comme un compagnon par les premiers utilisateurs de SAM qui permet initialement, qui permettait initialement des visites virtuelles au sein de familles géographiquement éloignées. En fait, ils ont créé ça pour cela. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, d'une part, pas seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées. Et donc, c'est tout naturellement qu'ils en sont venus à créer cette espèce de robot-là, SAM, pour l'instant, qui n'existe que dans un seul musée à Saint-Quentin en France. Mais je ne peux pas croire que l'idée ne va pas germer dans l'esprit de beaucoup et faire des petits. Alors, on espère une entrevue prochainement avec les deux personnes qui ont inventé SAM, c'est-à-dire Faisal Ouhou et Dominique Blasco. Ça va me faire du bien un petit peu de vous laisser la parole, Serge. Serge Bradet, qui est là en studio pour nous présenter une autre de ses chroniques historiques. Mm-hmm. C'est un peu la seconde partie de l'histoire de la Confédération que vous nous racontez. Mm-hmm. Alors, on poursuit. On en était où déjà, Serge?
On a terminé à l'acte d'union en 1841.
Oui.
Je vais, et évidemment, qui a suivi l'insurrection des Patriotes.
Oui.
Et de 1841 à 1867, mais là, à ce moment-là, c'est la réorganisation de la. C'est-à-dire que les négociations, et on pense à créer un autre système. Mm-hmm. Alors, juste pour rappeler les dates, en 1759, c'était la conquête par l'Angleterre.
Oui. Oui.
1763, la première constitution, entre guillemets, plutôt organisation de la colonie, comment allait fonctionner la colonie. En 1774, l'acte de Québec qui donne aux Français de la Nouvelle-France, qui sont maintenant sujets britanniques, des droits, on le reconnaît, le droit d'utilisation du français dans les actes officiels, la reconnaissance du code civil français, tout ça, et des droits, la reconnaissance de la religion aussi, droits que n'ont pas les autres colonies britanniques. Alors, parce qu'on voulait s'attacher, les Québécois, parce qu'on voyait la révolution américaine
mais
qui
oui.
s'en venait.
Oui, oui.
En 1791, l'acte constitutionnel Bas-Canada et Haut-Canada, Québec-Ontario,
oui, oui.
et là, évidemment, l'acte d'union en 1841, suite à la révolte des Patriotes.
Des Patriotes.
Ouais. Alors là, on arrive à la Confédération canadienne en 1867. Alors, la Confédération canadienne, c'est le processus par lequel les colonies britanniques distinctes et autonomes du Canada uni, Canada uni, c'est Québec et Ontario, à cause de l'acte d'union, et du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, qui se sont unifiés pour former un Dominion. Et lorsque la Constitution du Canada est entrée en vigueur le 1er juillet 1867, les colonies sont devenues collectivement provinces du Dominion du Canada. Ce nouveau pays a été formé sous la forme d'une fédération avec un régime de type monarchie constitutionnelle. À la suite de cette union, d'autres territoires intégrèrent la Confédération et de nouvelles provinces se sont créées. Dans l'ordre, je vous les donne, Manitoba 1870, Territoire du Nord-Ouest 1870 aussi, Colombie-Britannique 1871, Île-du-Prince-Édouard 1873, Yukon 1898, Alberta 1905, Saskatchewan également 1905, Terre-Neuve-Labrador, 1949, et le Nunavut,
ah oui?
la dernière.
Ah.
Oui, oui, c'était très, très dernier.
Mais oui, hein?
Oui, et le Nunavut, tout dernier, 1999.
Oui.
Alors, maintenant, il faut aller maintenant à la terminologie, parce qu'on va parler, on parle de Confédération canadienne, mais on est plutôt une fédération.
Ah!
Chose que, et c'est pour des raisons un peu politiques qu'on a utilisé Confédération.
Mm-hmm.
Alors, bien que son nom réfère à une confédération, Confédération canadienne n'en est pas une, mais plutôt une fédération, le terme confédération est maintenant souvent employé pour décrire le Canada d'une manière abstraite, et l'expression « les pères de la Confédération » sont un exemple d'une telle utilisation. Cependant, le terme se réfère habituellement plus concrètement au processus politique qui a unifié les colonies d'Amérique du Nord britanniques.
Oui.
Et non à la structure politique du pays. En effet, la science politique désigne une confédération comme une association d'États souverains où il n'existe pas d'État fédéral.
Oh, alors, ben oui, alors que c'est, ouais.
Alors
c'est
que
pas
c'est
cas.
Pas du tout le cas,
mais non.
Non. Mais plutôt d'une forme de gouvernance, de coopération. Une confédération est composée de délégués choisis par les États souverains,
oui,
et non élus. Ils sont choisis par l'État souverain, tandis que la fédération est régie par un droit externe aux États souverains. Alors, d'où toute la confusion qui en découle,
ouais,
depuis 1867 jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, bien que le terme confédération est souvent employé, le Canada est une fédération. Via son gouvernement fédéral, l'État fédéral du Canada fédère ainsi les provinces canadiennes qui sont en fait des États fédérés. Par ailleurs, le terme confédération est également employé pour diviser l'histoire canadienne en deux périodes, la période pré-confédération avant 1867 et post-confédération de 1867 à nos jours. Alors, l'acte d'Amérique du Nord britannique. La Confédération a été créée lorsque la reine Victoria accorda la sanction royale à l'acte de l'Amérique du Nord britannique, AANB, le 29 mars 1867, en anglais « British North America Act ».
Oh my dear.
Et fut rédigée, cette confédération fut rédigée pour des raisons politiques, de politique intérieure, pour contrer l'instabilité ministérielle, politique extérieure, menace d'invasion des Américains,
oui,
retrait du soutien militaire du Royaume-Uni, et ça coûtait cher de défendre le Canada, et économique, on avait besoin d'un chemin de fer.
Bien sûr.
Alors, il unifiait le Canada uni aux colonies du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. On formait un bloc, un premier bloc. Et il entra en vigueur le 1er juillet 1867. L'acte vient dissoudre l'acte d'union de 1840 qui avait précédemment unifié le Haut et le Bas-Canada. Et il est le principal document constitutionnel du Canada. Le Canada uni fut divisé en deux provinces séparées qui devinrent l'Ontario et le Québec. Mm-hmm. Donc, qui réglait le problème parce que les Français, les Canadiens de langue française n'étaient pas avantagés par l'acte d'union. Alors que l'acte d'Amérique du Nord britannique accordait au Canada l'indépendance nominale, le nouveau pays n'était toutefois pas entièrement souverain vis-à-vis du Royaume-Uni. La politique étrangère est restée entre les mains des Britanniques. Le comité judiciaire du Conseil privé, qui demeure le tribunal le plus haut d'appel du Canada, était à Londres, et la Constitution du Canada ne pouvait être amendée qu'au Royaume-Uni. Alors, graduellement, le Canada gagna plus d'indépendance et aboutissant à la loi constitutionnelle de 1982 qui coupa le cordon ombilical, pourrait-on dire. Et parce que jusque-là, toute modification de l'ANB était une prérogative du Parlement britannique.
Ouais.
Alors, depuis, la Constitution canadienne est modifiée par une majorité du Parlement du Canada, appuyée par une majorité qualifiée et parfois l'unanimité des provinces. Alors, les pères de la Confédération choisirent de baptiser le nouveau pays le Dominion du Canada, après avoir rejeté le Royaume et Confédération du Canada. Ça aurait fait un peu pompeux.
Oui, c'est vrai, oui, quand même.
Ils auraient pu créer le Dominion de Borealia, parce que du Nord, en latin, le Nord, ou par analogie avec l'appellation de l'Australie, du Sud en latin. À la lumière de l'évolution du Canada, le terme de Confédération est aujourd'hui perçu la plupart du temps comme une ruse de John A. Macdonald et d'autres pour encourager... Hein, on était un peu machiavélique. Encourager le Canada français et les colonies maritimes à venir participer aux discussions. La plupart des chefs coloniaux, redoutant d'être dirigés par la population du centre du Canada, ne voulaient pas d'un gouvernement central fort. Alors, Macdonald n'avait aucune intention de faire réellement du Canada une confédération et était disposé à maintenir plusieurs des colonies en dehors de l'union politique, plutôt que d'affaiblir le gouvernement du centre qu'il représentait. Le Canada est ainsi devenu une fédération, mais certainement pas une confédération comme la Suisse entre 1815 et 1848. Oui. Et cependant, l'impression que le nouveau Canada confédéral était un pacte entre deux peuples fondateurs domina le discours politique du Québec pendant presque un siècle. Il faut que je conclue là, en temps. Oui.
Mais
oui,
vous avez une petite trentaine de secondes, mon ami. C'est parce que j'ai encore
pas
déjà une autre invitée au téléphone. Alors c'est pour ça que je vais pas.
Juste vous dire que la confédération de 1867 n'a jamais été adoptée par référendum. Parce que Macdonald n'était pas sûr que ça passerait au vote populaire. Il l'a fait voter au Parlement, point, c'est tout.
Oui, et ça, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui lui reprochent.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Serge. C'est toujours bien passionnant de vous entendre. Mm-hmm. Ça remet nos souvenirs d'histoire à la bonne place.
Oui, ben oui, parce qu'on oublie beaucoup.
On oublie vite, oui, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Serge Bradet, et on se retrouve très rapidement, ici même en studio. Je voudrais maintenant m'entretenir avec une femme qui est une maman, qui est la maman d'un petit garçon, pour le moins résilient, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour le moins aussi malchanceux, c'est aussi le moins qu'on puisse dire, et elle va nous raconter ça. Martine Fontaine, bonjour.
Bonjour Madame Fay.
Ça me fait plaisir de vous parler Madame Fontaine. Vous êtes la maman du petit Nathan.
Hein? Oui, c'est ça.
Et j'ai fait connaissance de cette triste histoire de ce petit garçon, Nathan, donc votre fils, dans l'excellente revue de l'ACPEV, L'Éclaireur, dans laquelle vous avez raconté son histoire. L'histoire d'un petit gars à qui il est arrivé un accident malchanceux et malheureux. Vous nous le racontez?
Oui, mais c'est ça. C'est un accident qui est vraiment très bête. Dans le fond, Nathan, il a déjà une déficience visuelle causée par un glaucome congénital. Il y a eu plusieurs opérations depuis qu'il est bébé. L'année passée, au mois de juin, juste avant de participer à un concert avec son école et d'autres écoles de la commission scolaire Marie-Victorin, avec l'Orchestre symphonique de Longueuil pour leur concert d'ouverture de l'année. Une trentaine de minutes avant de commencer, Nathan a reçu un coup de canne blanche dans son seul œil voyant.
Oh.
Et ce que ça a fait, ça l'a perforé sa cornée. Il faut que je précise qu'il y avait une greffe de cornée comme 7 mois avant, donc il y avait encore les sutures. Et sa cornée s'est complètement ouverte. Une lentille intraoculaire qui avait été mise il y a quelques années pour une opération de cataracte était même sortie de son œil.
Oh.
Alors, il n'a pas pu participer au concert. On s'est rendu de toute urgence à Sainte-Justine. Son ophtalmologiste, Dr. Hamel, a opéré d'urgence en soirée. Pour constater qu'en effet, la lentille était vraiment sortie. Il y avait un petit décollement de la rétine, un décollement séreux. Donc, c'est du liquide qui s'était un petit peu accumulé derrière la rétine.
Ouais.
Et puis, ça a été l'opération pour refermer tout ça. Puis comme la greffe de cornée a été faite au CHUL à Québec, donc 2 jours après, on a dû se rendre à Québec. Réopération avec le médecin pour la cornée et le spécialiste de la rétine.
Oh là là, mais en tout, il en a subi combien, ce petit bonhomme? Des opérations?
Des opérations?
Aux yeux.
Depuis qu'il est né?
Oh oui.
Mon Dieu, je vous dirais au-dessus de 70 anesthésies générales parce que son glaucome fait qu'il est très photophobe. Donc, il ne tolère pas du tout la lumière. Les examens en ophtalmologie sont vraiment très pénibles. Alors, beaucoup d'examens sous anesthésie générale. Mais en opération seulement, je n'ai pas fait le compte, mais on dépasse sûrement la trentaine là, d'opérations.
Ouais. Bon, alors, mais ce petit bonhomme, hein, je le lisais, appelons-le par son prénom, Nathan.
Oui.
Par contre, c'est un gamin très très enthousiaste, hein, je crois, hein, très plein de volonté, qui a plein d'envie dans la vie. Hein. Entre autres, il a eu envie de se mettre au violon, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Ben, comme sa condition va mieux depuis quelques mois et puis qu'il montrait un peu d'intérêt pour apprendre le violon, on a commencé à lui faire prendre des cours en janvier.
Bon, mais là, OK, l'autre œil, il n'y voyait plus du tout de cet autre œil-là, de
non,
celui
il a,
qui...
il a perdu complètement la vision 1 mois avant son accident à cause de la récidive d'un décollement de rétine complet.
1 mois avant l'accident. Maintenant, oui. Donc, c'est l'autre œil qui a été atteint par l'accident. Est-ce qu'il va voir un peu un jour de cet œil-là ou est-il maintenant complètement aveugle?
Je vous dirais qu'il voit, il fonctionne encore en agrandi. On lui fait apprendre le braille aussi depuis 2 ans.
Oui.
Il voit moins qu'avant cet accident-là.
Oui.
Il rentre dans les critères de cécité légale, en fait.
D'accord.
Mais il joue quand même à des jeux vidéo, il regarde la télévision,
oui,
il peut lire,
oui.
Mais
bon.
Tout en agrandi. Là, même
d'accord.
Pour le violon, tout est en agrandi.
D'accord. Et puis, vous aviez envie, Madame Fontaine, de parler peut-être à ceux qui ont des enfants, peut-être même des enfants qui n'ont pas de soucis de vision pour le moment, mais ceux qui en ont, vous aviez envie de nous dire, vous savez, il y a des petites recommandations, il y a des choses à faire pour éviter peut-être ce genre d'accident. Vous pensez à quoi, notamment?
Oui, ben en fait, moi, ce que je trouvais, c'est que ça m'a fait prendre conscience que les personnes avec un handicap visuel sont parce qu'ils ne sont pas capables de prévoir, de prédire les dangers parce qu'ils n'ont pas de vision, sont plus
à risque.
À risque, justement, de subir des blessures de n'importe quel type aux yeux. Une simple paire de lunettes, je
pense,
oui,
hein.
Nathan en avait eu une. Il y aurait probablement eu des dommages parce que le coup a été vraiment très fort en repliant la canne. C'est un ami qui, en repliant sa canne, ça l'a donné un coup. Puis Nathan, il se trouvait être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je suis persuadée que ça l'aurait été beaucoup moindre. Les dommages auraient été beaucoup moindres. Puis son médecin à Sainte-Justine m'a dit qu'un coup comme Nathan aurait reçu, même une cornée qui aurait été normale aurait pu perforer. Donc, je pense que ces précautions-là s'adressent pas seulement aux handicapés visuels, mais
non, à tout le monde,
monde
oui.
À tout âge.
Au
même titre que je me dis qu'on s'attache en voiture pour éviter, si on a un accident, d'être sérieusement blessé, ou mettre la crème solaire pour éviter le cancer de la peau, c'est la prévention.
Et c'est fou d'ailleurs ce que vous dites, parce que j'ai l'image aussi, moi, en ce moment... dans mon esprit, de ces personnes qui se font opérer parce qu'elles ne veulent plus porter de lunettes. Et ça, il y en a quand même de plus en plus, hein, parmi les gens qui sont simplement myopes et qui se font opérer et qui, du jour au lendemain, ne portent plus de lunettes. Et tout d'un coup, je me dis que leurs yeux se retrouvent exposés beaucoup plus que lorsqu'ils en portaient, du coup.
Tout à fait, tout à fait. Je pourrais même vous dire, j'ai connu, moi, une personne complètement aveugle qui porte des lunettes, mais elle avait un but, c'était à son décès de pouvoir faire don de ses cornées.
Ah, en effet. C'est
alors,
quand même... Et l'autre chose aussi dont vous vouliez nous parler, Madame Fontaine, voilà, pardon, c'est... qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il arrive un accident? Quels sont, comme celui-ci, quels sont les premiers gestes qu'il faut faire? Il nous reste une bonne minute à peu près, Madame Fontaine.
Quand c'est arrivé, ça, c'est sûr que je ne savais pas quoi faire. J'ai été capable d'entrer très rapidement en contact avec son ophtalmologiste à Sainte-Justine. La première chose qu'il m'a dit, c'était primordial. Il ne fallait pas du tout qu'il applique de pression sur son œil.
D'accord.
Pour éviter que son œil se vide de son contenu plus qu'il était là.
Ça aurait
causé encore plus de complications.
Okay.
Mettre une petite compresse dans le fond ou une coquille, justement, pour éviter qu'on est porté à frotter notre œil. C'est un réflexe, hein, mais juste...
C'est la dernière chose qu'il faut faire.
Tout à fait. Puis mettre aussi des microbes aussi qui pourraient causer des infections.
Absolument. Absolument. Mais écoutez, c'est vraiment une excellente chose que vous nous ayez partagé ce malheureux incident et aussi toutes les conséquences et les mauvaises et les bonnes. Alors, nous ici, toute l'équipe de Canal M et les auditeurs, on l'embrasse bien fort, Nathan.
Ça me fait plaisir.
Hein?
Nathan a une devise. Dans la vie, il faut toujours être positif.
D'accord. Merci, Madame Fontaine. Au revoir. M l'était la suite. On s'est dit que ce serait peut-être bien si on pouvait sentir un peu battre le pouls de la capitale, de la ville de Québec cet été. Et on avait la personne toute désignée pour cela, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'émission Les Capés, qui est diffusée justement dans la vieille capitale. Et c'est Michel Bédard. Bonjour Michel.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va très bien.
Ça va bien? Bon.
Mais un peu fatigué. On est dans le cadre du festival d'été. On est à mi-chemin, à mi-parcours, devrais-je dire, dans le festival. Et donc, on commence à être un peu fatigué de couvrir tous ces bons spectacles.
Alors, parlons-en de ces bons spectacles-là. Mais d'abord, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Bon, je connais quand même bien la ville de Québec, même si je n'y vis pas. C'est une ville très en pente. C'est une ville où il y a beaucoup d'escaliers. C'est une ville... Comment ça se passe au niveau de l'accessibilité à Québec, notamment pour les personnes en fauteuil roulant?
Je vais parler pour le festival d'été puisque, comme je vous disais, on est en plein cœur du festival. Mm-hmm. Ça se passe très bien. Depuis plusieurs années, différents organismes communautaires travaillent en collaboration avec le festival d'été à améliorer les accès. Il y a une dizaine d'années, on était à 60 places accessibles sur les plaines d'Abraham, alors que le site en contient à peu près 75 000,
oui.
Ou à peu près. Actuellement, on est à 300 places.
Wow. Oui.
sur les plaines. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de négociations avec les gens du festival d'été. Ça a été quelque chose de bien maintenant. Ça se passe très bien. Il y a des salles, il y a des toilettes chimiques accessibles sur l'espace.
Aussi.
Il y a des bénévoles. Oui. Alors, pour 300 personnes, je vous dirais qu'il y a 4 toilettes accessibles.
Mais là, vous parlez des plaines d'Abraham, mais oui. En ville aussi, ce qui se passe...
Le transport adapté, la STAC, débarque oui. Les gens à quelques mètres de la plateforme réservée pour ce qui est des plaines d'Abraham. Et la même chose au parc de la Francophonie, qui est un petit peu plus... Je dirais pas en basse-ville, mais un peu plus bas dans la ville.
D'accord.
Le transport adapté est très, très bien organisé encore là. Il y a une belle collaboration entre le festival et le transport. Collaboration qui commence dès le mois d'avril-mai, à savoir où on s'installe, comment on fonctionne, quels sont vos changements cette année et tout.
Donc, d'accord.
Il y a une belle chimie, il y a une belle collaboration entre... les gens des organismes communautaires, la STAC et le festival...
C'est le fun, ça, d'entendre ça, parce qu'on entend tellement souvent plutôt le contraire que là, c'est le fun de voir qu'il y a de la communication et du coup, de l'amélioration. Mais j'imagine qu'il y a encore place à l'amélioration et qu'on compte encore améliorer tout ça dans les années futures.
Oui, justement, d'ailleurs, une des améliorations qu'on a eues cette année, c'est qu'au Parc de la Francophonie, ils nous ont changé d'endroit. On était à l'époque tout près de la scène, à la hauteur des gens. Donc, si les gens étaient on était à l'écart du régulier, mais on était sensiblement à la même hauteur. Donc, les gens en fauteuil voyaient pratiquement rien du spectacle. Maintenant, ils nous ont amenés un peu plus loin, mais on est sur une plateforme et ils ont réussi à permettre à 10 personnes de plus de rentrer que les autres années.
C'est le fun.
Francophonie. Il faut savoir qu'il y avait 20 places accessibles par les années passées. Et cette année, on est monté à 30 places.
Bon.
C'est un plus petit parc. Mm-hmm. Sur les plaines, c'est 70 000, 80 000 personnes.
Bien sûr.
Le parc de la Francophonie, on parle de 5 10 000 peut-être.
Mm-hmm.
Entassé, là, vraiment serré. Là,
bien sûr.
On peut peut-être entrer 10 000 personnes. Donc, c'est sûr que le programme n'est pas le même. Là.
Bon, écoutez, Michel, alors ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous allez voir?
j'ai vu dans les derniers jours Pink, qui est une artiste très populaire. J'ai vu également les Backstreet Boys en fin de semaine. J'ai vu Milt Hartridge en ouverture du festival
oui.
du dernier.
Mm-hmm.
3 très, très bons spectacles. J'ai vu également lundi Gino Country avec Lady Antebellum.
Mm-hmm.
Hier soir, j'ai pris ça un petit peu tranquille parce que, on ne veut pas, à un moment donné, il faut prendre le temps de respirer.
oui.
Ce soir, je vois Bobby Basini qui est précédé de Mathieu Olibobski qu'on a pu voir à la voix il y a 1 ou 2 ans.
D'accord.
Exactement. Et je vois également Liv Volebec. C'est une soirée folk.
Okay.
Une soirée tranquille. Je ne dis pas pour vous à Montréal quelle température il fait, mais nous, c'est gris, c'est frais aujourd'hui.
Ici donc, aussi.
Ça va nous réchauffer, je pense.
Ici aussi.
Cette belle soirée.
Ouais,
ouais. Demain soir, je vois Nicolas Michaud, un artiste français. Le retour des Men Without Hats.
Ah, dites donc, excusez-moi, je vous interromps, Michel, mais ça fait du bien d'entendre un nom français au milieu de tout ça, là.
il y en a plusieurs des artistes français. J'ai pas eu la chance d'en voir beaucoup, mais je sais qu'il y en a quand même passablement.
Non, mais c'est pas parce qu'ils sont français, mais au moins, ils ont un nom français qui sonne français. J'imagine qu'ils chantent en français aussi.
Oui, tout à fait, effectivement.
Parce que dites donc, même. Il semble que ça a changé beaucoup, le festival d'été.
Oui, depuis 2004, je dirais que ça s'est beaucoup internationaliser.
Oui, 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 oui.
Et donc, pour ce soir, comme je vous disais,
oui.
je vois Nicolas Michaud,
oui.
Men Without Hats, un groupe montréalais, qui ont été, si je ne me trompe pas, au Francofolie ou au Festival de Jazz dans les
au Festival
jours.
De Jazz, oui. Oui, oui, au Festival.
Et je vois également les Trois Accords, groupe de la région de Drummondville.
Oui.
Vendredi, c'est la soirée métal avec Metal Lord, Voivod et Metallica.
Vous allez y aller? À Metal Hurlant?
Moi, je... oui. En principe, je suis supposé d'y aller.
N'oubliez pas vos bouchons.
Non, effectivement. Parce qu'il faut dire que le festival d'été fonctionne par réservation.
Oui.
Au mois de mai, les gens à mobilité réduite doivent réserver 4 spectacles. Le 1er ou le 2 mai, aux alentours de cette date-là, on doit réserver 4 spectacles.
Okay.
Et un peu plus tard dans le mois, c'est 4 autres spectacles.
D'accord.
Lors de la première vague, ça se peut qu'il y ait des spectacles qui se remplissent. Par exemple, Metallica s'est rempli très rapidement.
Très rapidement.
On parle de 300 places en à peine quarantaine de minutes. Là.
Oui.
C'est très, très, très rapide.
Oui,
donc,
oui.
Et à partir de 8h30, 20h30, donc, les gens qui ne se sont pas présentés et qui avaient réservé, en fait, les réservations ne tiennent plus, ne comptent plus.
Okay.
Donc, les gens qui sont en file d'attente
mm-hmm.
peuvent entrer selon le nombre de places.
OK, je comprends.
Pour arriver à 306, par exemple, il y a 280 personnes qui sont entrées dans la plateforme.
Ben oui, il y a 20 personnes qui peuvent en profiter, c'est ça.
Exactement.
D'accord,
donc,
parfait.
Moi, je serai dans cette liste d'attente-là
d'accord.
pour Metallica.
D'accord.
Et on finit, et samedi soir, je fais un temps du festival, et dimanche, il y a Muse, un groupe qui est très, très populaire à Québec. Ils ont fait le Centre Vidéotron à quelques reprises. Je pense qu'ils ont fait aussi le Centre Bell à Montréal. Ça va être un gros show. On nous prévoit quelque chose de gros,
bon.
des feux d'artifice, la pyrotechnie, plein de
bon.
Belles choses. Ce dimanche, en fermeture de festival d'été.
D'accord. La Michelle, je vous interromps, mais ce soir, vous n'avez pas un anniversaire célèbre, vous, à fêter à Québec? Vous n'avez pas Michel Louvain?
Donnez-moi un instant.
Est-ce que c'est ce soir?
Oui, effectivement.
Ou... Hein?
Oui, c'est ce soir.
C'est ce soir,
oui,
hein?
Oui,
il fête ses 80 ans, le monsieur, quand même.
80 ans et ses 60 ans de carrière.
Wow!
Spectacle qui aura lieu à 21h.
Bon, bon.
À la scène Hydro-Québec, qui se situe à la place du Ville. Ce spectacle-là, et c'est très important de le mentionner, est gratuit.
Oui.
Sans laisser passer.
Bon.
Donc,
okay.
On n'a pas besoin de payer
d'accord.
quoi que ce soit pour
d'accord.
Aller voir Michel Louvain. Ce soir, donc, à 21h10, ce spectacle-là sera précédé de Francis Faubert et de Gab Paquet
okay.
à 18h et 19h30, respectivement.
Parfait, parfait. Vous vouliez nous parler d'autre chose? Il faudrait que ce soit brièvement, mon ami, parce que l'heure tourne.
Oui, en fait, à partir du 18 juillet prochain, il y aura les rendez-vous 2017. C'est les voiliers qui seront
ah, oui.
au départ de Québec. Je vous donne l'adresse Internet rapidement pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est rdv2017.com et sachez que vous pourrez visiter deux voiliers. Il y aura donc deux voiliers qui seront accessibles
oui.
Aux gens en fauteuil roulant. Ils attendent et ils espèrent le plus de monde possible lors de cette
bon.
Visite des deux.
J'aimerais beaucoup, Michel, qu'on vous laisse une place parce que j'imagine que vous allez aller les visiter. C'est deux voiliers.
Le coup, effectivement.
Bon, si vous y arrivez, rappelez-moi et puis j'aimerais beaucoup qu'on puisse vous trouver une place pour que vous nous en parliez. Ils sont là combien de temps?
Du 18 au 23 juillet.
Bon, on va peut-être
donc,
avoir...
À la fin de la semaine prochaine.
Bon, on va essayer de vous trouver une place la semaine prochaine, quitte peut-être à ce qu'on déplace quelqu'un avec un sujet un petit peu moins temporel comme ça, mais parce que j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez, Michel, hein, si vous arrivez à aller visiter un de ces bateaux, d'accord?
D'accord, ça va me faire un grand plaisir.
OK, alors je vous souhaite une belle journée puis bonne continuation au Festival d'été.
Merci, Boussy.
Merci, Michel.
Au revoir.
de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent, te pourrissent et font de ton cerveau un joli petit brouillon. L'amour de son prochain, on verra ça demain. Avant tout, faut bien s'occuper de sa petite personnalité. Les autres ont tant de défauts que dans tout ça, mon petit écho va se noyer, mon Dieu, je le crains, dans l'amour de son prochain. De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace, car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour de son prochain. On a tous notre territoire. Et là, tu vois, on veut pas d'histoire. On peut toujours en discuter entre tribus civilisées. D'accord pour l'amour de son prochain, s'il m'est prouvé que c'est un petit peu bien. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager.
Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Aime l'été sur les ondes de Canal M et que c'est Clotilde Seille qui vous accompagne avec ses invités. Et là, on va finir avec une femme, elle s'appelle Madame Côté, Carole Côté. Elle est spécialiste en orientation et mobilité, programme déficience visuelle du CIUS de la capitale nationale. Et j'ai trouvé dans, encore une fois, l'éclaireur, le magazine de l'ACPEV, un sujet qui la concerne, puisqu'il s'agit d'un objet qui facilite le déplacement de personnes non-voyantes, un petit objet qui s'appelle le côte-à-côte et dont elle est l'inventrice, je pense, ou l'inventeuse. Bonjour, Madame Côté.
Oui, bonjour, Madame.
Alors, c'est vous qui avez inventé cet objet-là, le côte-à-côte.
Oui, tout à fait, oui.
Hein, c'est ça. D'abord, je voudrais que vous nous le décriviez pour les personnes qui nous écoutent. Ça
oui,
ressemble
bien
à quoi?
En fait, le côte-à-côte, c'est fait à partir d'un goujon de bois. Puis il a 10 pouces de long.
Oui.
Il comprend deux poignées qui sont fixées à chacune de ses extrémités.
D'accord.
Mais de façon opposée, là, pas sur, pas dans le même sens.
Je comprends tout à fait.
Donc, cet petit objet-là, chaque personne dont le guide prend une poignée, et l'autre poignée, c'est la personne qui est guidée qui le tient, qui tient cette poignée-là.
Bon, parce que vous êtes partie de quel postulat, Madame Côté? Parce qu'on sait que souvent, les personnes aveugles aiment bien prendre le coude de la personne qui le guide, qui le précède. Oui. Parce que, et on dit d'ailleurs que les personnes aveugles, du coup, sentent déjà quelle direction la personne va prendre en prenant le coude de la personne, mais c'est pas bon pour tout le monde, finalement.
Mais c'est ça, effectivement. En fait, la technique que vous parlez, c'est la technique de guide voyant ou la technique de guide humain.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Le côte à côte m'est venu à partir, en fait, d'un jeune avec qui je travaillais les déplacements, un jeune qui a une déficience visuelle et une déficience intellectuelle légère. Mm-hmm. Et son professeur me faisait part que ce petit bonhomme-là, en fait, ben, ce jeune homme-là, il avait 12 ans à l'époque, avait de la difficulté quand il faisait des sorties scolaires avec son professeur puis avec le groupe.
Oui.
En fait, il avait de la difficulté, lui, à tenir le bras du guide.
Oui.
Il avait de la misère à suivre le mouvement. Puis, lors des traversées de rue, il était très craintif. De là, m'est venue l'idée, finalement, de trouver un moyen pour l'aider, pour l'aider dans ce déplacement-là. Donc, l'idée du côte à côte m'est venue, puis j'ai travaillé ça, puis voilà.
Et puis voilà, mais parce que moi, j'en avais jamais entendu parler, je n'en ai même jamais vu. Mm-hmm. Est-ce que les personnes non-voyantes connaissent bien ce petit objet?
En fait, on commence tout juste là
à le commercialiser,
à
peut-être.
À le commercialiser ici, en fait, à le vendre, parce que on dit, bon, moi, ça m'est venu à partir de cette problématique-là, mais ça peut être utile aussi pour les gens qui font des sorties là, de la marche, finalement.
Bien sûr.
J'ai un collègue qui l'utilise avec son groupe de marche, donc les personnes aiment vraiment ce petit outil-là parce qu'on sait que l'été, on a chaud. Donc, tenir le bras du guide, des fois, on peut avoir la main moite,
absolument,
le bras
chaud. Absolument.
Donc, ça permet d'avoir, de se déplacer de façon sécuritaire, finalement. Mais en même temps, ça permet au guide d'être plus à l'aise puis à la personne guidée aussi. Le contact physique n'est pas là.
En quoi, par contre, c'est plus sécuritaire que la technique du guide humain?
En fait, ça, c'est pas plus sécuritaire, je dirais, c'est autant sécuritaire. Parce qu'on respecte vraiment, par sa longueur de 10 pouces, puis l'emplacement des poignets, on respecte vraiment la position entre le guide et la personne guidée.
OK, c'est-à-dire la personne en avant, un petit légèrement en avant, et la personne légèrement en arrière, bien sûr, qui a besoin
c'est
d'être
ça, parce
guidée.
Que le
D'accord.
guide tient la poignée au devant, et la personne guidée la poignée derrière.
D'accord.
Donc, la distance est respectée. C'est aussi sécuritaire là, que la technique de guide.
Oui, et on peut penser qu'il n'y a pas que les personnes non-voyantes qui pourraient en profiter.
Bien justement, je vous parlais de groupe de marche, ça implique des personnes non-voyantes, mais si on parle à une clientèle, je vous donne un exemple, des jeunes ou des adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, certaines personnes ont de la difficulté à rentrer en contact physique avec les autres. Donc, ils n'aiment pas être touchés et ils n'aiment pas toucher les personnes.
C'est vrai.
Donc, ça peut être un outil vraiment utile pour cette clientèle-là aussi.
Écoutez, Madame Côté, la dernière question, évidemment, c'est où peut-on se procurer ce petit objet sensationnel et à quels frais?
Oui, eh bien, ce petit outil-là est disponible au magasin d'aide visuelle du CIUS de la Capitale-Nationale.
D'accord.
Donc, ici, à l'IRDPQ. Il y a le numéro de téléphone, je peux vous le laisser.
Oui, bien sûr, s'il vous plaît.
Alors, c'est le 418-529-9141. Le poste est le 2233 et le coût, c'est 7,95 l'unité.
D'accord, 7,95 l'unité plus les frais d'envoi, j'imagine. Pour les gens qui auraient Internet, ils peuvent commander par courriel?
Oui, tout à fait. Vous voulez l'adresse?
Oui, s'il vous
Alors,
plaît.
Alors, c'est magasin, magasin.dvda@commercial. irdpq.qc.ca.
Alors, comme tout ça peut être un petit peu complexe pour des gens qui nous écoutent, ce qu'on va faire, Madame Côté, c'est qu'on va, on va donner l'information à notre, à la personne qui s'occupe de notre site Internet. Et comme ça, elle va pouvoir mettre une photo aussi, oui, de cet objet dont on rappelle le nom, le côte à côte. Et comme ça, on va pouvoir indiquer toutes les informations pour se procurer ce petit objet, ma foi, très pratique à bien des égards. Alors, ben, Madame Côté, merci beaucoup pour votre beau travail.
Ça m'a fait très plaisir. Merci à vous.
Mais je vous en prie, je suis contente qu'on sache maintenant ce que c'est qu'un côte à côte et comment se le procurer. À bientôt. Merci.
Merci. Au revoir.
Suspense boulevard Haussmann à son cœur. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle évince. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe.
Quelques nouvelles en rafale maintenant pour finir l'émission M l'été. Tiens, un petit bonus vacances, une liste des hébergements avec le roll-in shower. Ça veut dire c'est la douche sans seuil, c'est la douche à l'italienne qu'on appelle un peu plus communément la roll-in shower. Et c'est tout simplement une douche dont l'accès est sans seuil. Alors, pour de nombreuses personnes en fauteuil roulant, ben ce critère n'est pas un luxe, loin de là, c'est plutôt une nécessité. En effet, la douche sans seuil permet à une personne dans l'impossibilité de se transférer par elle-même, de se doucher directement à partir d'une chaise roulante de douche, avec ou sans assistante. Sans assistance. Elle est aussi particulièrement pratique pour qu'une personne puisse se transférer facilement sur le banc de douche. Qu'il soit fixe ou rétractable ou amovible. Et puis ensuite, il peut refermer le rideau de façon à ne pas arroser le fauteuil à l'extérieur. Alors, contrairement au transfert dans un bain, celui dans une douche ne demande pas de passer les jambes par-dessus le rebord. Alors, pour cette personne, pour cette raison, les personnes âgées peuvent aussi bénéficier de cette installation. Alors, considérant tout ceci, le nombre d'établissements munis de réelles douches à l'italienne est très restreint au Québec. Alors, on vous propose une liste des principaux établissements d'hébergement du Québec bénéficiant d'une douche sans seuil dont vous pourrez à votre tour bénéficier. Alors, l'adresse où trouver cette fameuse liste, lequebecpourtous.com, je répète, lequebecpourtous en un seul mot.com, / chambre au pluriel, trait d'union, avec, trait d'union, douche, trait d'union, sans, trait d'union, seuil. Et voilà. Alors, je me suis dit qu'on ne sait jamais, peut-être que vous êtes à la veille de partir. Eh bien, si vous vous posez la question, hein, c'est quand même sympathique, c'est dans lequebecpourtous.com. Et voilà ce qui conclut M l'été pour aujourd'hui. Merci à mon équipe, c'était Clotilde Sey, qui vous souhaite une bonne journée et qui vous dit à demain, midi.